En ce moment même, il y a très probablement un jeune trentenaire à Casablanca qui ne cherche pas du tout une simple vitamine C générique sur son téléphone.
Ouais, on est loin de ça aujourd'hui.
Exactement. En fait, il tape une requête ultra spécifique, genre trouver un extrait de fenugrec, cultivé localement, et ça, c'est pour aider sa partenaire à gérer les douleurs liées à l'endométriose.
C'est très précis, en effet.
Très ciré. Et cette scène, bah, elle se répète des milliers de fois par jour. Ça illustre une transformation vraiment colossale. Aujourd'hui, on fait une plongée au cœur d'une industrie mondiale qui pèse plus de 180 milliards de dollars.
C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est clair.
Totalement. Et cette industrie, du coup, elle tourne soudainement son regard vers les montagnes et les vallées du Maroc. Notre sujet du jour, c'est l'explosion prévue de la production locale de compléments alimentaires d'ici 2026.
Un vrai tournant économique.
Pour naviguer là-dedans, on s'appuie sur un guide stratégique super complet qui a été publié par la plateforme spécialisée monprojet.ma. Notre mission, c'est de comprendre pourquoi ce marché précis s'emballe.
Et surtout, comment on transforme ce patrimoine botanique en une entreprise rentable, quoi.
Voilà. Et quels sont les pièges à éviter pour les nouveaux venus, bien sûr, parce que c'est bien plus qu'un simple plan d'affaires. C'est un miroir fascinant de l'évolution de la société. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Si on regarde ce qui s'est passé depuis la pandémie, il y a eu un changement radical dans notre rapport à la santé.
Ah bah le changement est total. Et en fait, ça s'explique par un basculement de mentalité très clair. Avant cette crise sanitaire mondiale, l'approche dominante était, disons, purement réactive.
On attendait d'être malade, quoi.
Exactement. Pour utiliser une image simple, c'était un peu comme mettre des seaux d'eau sur le sol du salon pendant qu'il pleut. On attendait que les symptômes apparaissent pour chercher un remède. Mais aujourd'hui, la demande s'oriente massivement vers le préventif.
On répare le toit avant la tempête.
C'est exactement ça. Et le document de monprojet.ma souligne cette évolution avec une précision étonnante. Les consommateurs ne cherchent plus juste à combler des carences floues, genre je suis un peu fatigué.
Ouais, ils veulent du sur-mesure.
Tout à fait. Ils veulent des solutions pour des maux très précis, comme l'hypertension légère, l'anxiété chronique ou les problèmes d'articulation.
C'est une démarche d'une précision chirurgicale. Et quand on relie cette demande mondiale aux ressources géographiques locales, bah, l'évidence saute aux yeux.
Ah oui, le potentiel est énorme.
Le Maroc est littéralement assis sur une mine d'or verte. On parle de plantes endémiques, d'une richesse aromatique incroyable. Tu vois, le thym, le romarin, la nigelle, le fenugrec et bien sûr l'incontournable arganier.
Qui n'est plus juste pour la beauté, d'ailleurs.
C'est ça. Ce ne sont plus seulement des ingrédients de cuisine ou des remèdes de grand-mère. Ce sont devenus des matières premières à très haute valeur ajoutée. Et c'est soutenu par une volonté gouvernementale de créer une véritable filière made in Morocco. Mais j'ai une question.
Vali?
Pourquoi a-t-il fallu attendre un choc sanitaire mondial pour que l'on passe enfin d'une logique d'importation massive à une volonté d'exploitation industrielle de nos propres richesses?
Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique même des chaînes d'approvisionnement mondiales et la façon dont elles se sont brisées.
À cause du Covid, tu veux dire?
Oui, pendant des décennies, le modèle économique était d'une ironie cruelle pour les pays émergents. En fait, le Maroc exportait sa matière première brute, comme le romarin ou la graine de nigelle, à un prix dérisoire vers l'Europe.
Ouais, la matière brute. Brute de chez brute.
C'est ça. Et là-bas, des laboratoires extrayaient les principes actifs, formulaient une belle petite gélule, concevaient un emballage élégant.
Et on rachetait le tout à prix d'or.
Exactement. On réimportait ce produit fini avec une marge bénéficiaire colossale qui restait à l'étranger. Mais la pandémie a paralysé les ports et stoppé ces flux. L'incapacité soudaine à s'approvisionner a transformé ça.
C'est devenu une urgence.
Oui, la réduction des importations est passée d'une simple question de balance commerciale à un véritable impératif de souveraineté sanitaire. Et le consommateur lui-même a réalisé l'absurdité de la situation.
Bah, c'est vrai que c'est absurde.
Pourquoi payer le prix fort pour une plante qui pousse à quelques kilomètres de chez soi, juste parce qu'elle a fait un aller-retour en Europe pour être mise dans une capsule, quoi?
C'est clair. La logique est implacable. Donc, on comprend bien la mécanique macroéconomique. Le pourquoi et le pourquoi maintenant, c'est très clair. Mais penchons-nous sur la réalité du marché.
Oui, les acheteurs.
Il faut définitivement enterrer le vieux stéréotype du consommateur de poudre de protéines. Tu sais, l'image du culturiste avec son énorme pot dans une salle de sport. Les données montrent que le profil a complètement changé.
Né par les produits d'importation venus de France, des États-Unis et d'Asie. Ça maintient les prix de vente en pharmacie à un niveau très élevé.
C'est super cher en pharmacie, oui.
Mais en face, le public cible s'est métamorphosé. L'analyse segmente cette nouvelle clientèle de manière très pointue. D'abord, il y a les jeunes adultes urbains de 25 à 40 ans.
Les jeunes actifs, quoi.
Voilà. Ils gèrent des carrières stressantes, du coup, ils consomment ces produits pour optimiser leur sommeil, leur concentration ou leur performance physique. Ensuite, et c'est un moteur économique majeur, il y a le segment féminin.
C'est là qu'on repense à notre exemple de l'endométriose.
Tout à fait. Les femmes recherchent activement des alternatives naturelles pour la fertilité, la grossesse, la ménopause ou des affections complexes comme l'endométriose. La médecine classique offre parfois des traitements lourds ou incomplets pour ça.
Donc, elles se tournent vers les compléments.
C'est ça. Et enfin, il y a la population des seniors qui est en forte croissance et qui investit massivement pour préserver son autonomie. Ils ciblent la mémoire, le cœur, les articulations.
Attends, notre source avance des chiffres très précis sur les dépenses de ces groupes. On parle d'un pouvoir d'achat mensuel estimé entre 3 000 et 8 000 dirhams pour le cœur de cible, avec un budget alloué au complément allant de 100 à 400 dirhams par mois.
C'est un budget conséquent, oui.
Bah franchement, je dois admettre que ça me rend perplexe. Dépenser jusqu'à 400 dirhams par mois uniquement pour des vitamines ou des plantes, ça semble être une charge énorme, presque un luxe pour un revenu situé dans cette fourchette. Est-ce que vraiment réaliste à grande échelle ?
Bah, ça semble effectivement élevé si l'on considère le complément alimentaire comme un produit de luxe ou un simple achat impulsif. Mais la mécanique mentale du consommateur a changé, en fait.
Comment ça ?
Ces 100 à 400 dirhams ne sont pas perçus comme une dépense supplémentaire, mais comme une réallocation budgétaire. Ce public considère cet achat comme un investissement préventif.
Ah, je vois. Ils économisent sur autre chose.
L'idée sous-jacente est simple. Dépenser 300 dirhams aujourd'hui dans une cure de magnésium de haute qualité ou d'oméga-3, bah, ça permet d'éviter la fatigue chronique, les arrêts maladie ou la surconsommation de médicaments curatifs plus tard.
C'est un calcul sur le long terme.
Et c'est là qu'une marque marocaine peut frapper un grand coup. Les produits importés flirtent souvent avec la barre des 500 ou 600 dirhams.
Ouais, c'est hors de prix pour beaucoup.
Si un producteur local parvient à proposer une qualité équivalente à, disons, 150 dirhams, il ne crée pas seulement une alternative, il débloque littéralement une demande qui était jusqu'ici frustrée par le prix.
C'est un point de bascule fascinant, ça. Le public est prêt. Le budget est justifié. Les plantes poussent à profusion. Tout semble aligné.
Sur le papier, oui.
Mais bon, transformer une feuille de thym en un produit légalement vendable sur une étagère, ça demande plus que de la bonne volonté. Le document détaille un véritable parcours du combattant réglementaire.
Oh que oui, c'est pas si simple.
Au-delà des bases administratives comme la création d'une SAREL, le registre du commerce ou la CNSS, le véritable gardien du temple s'appelle l'ONSSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
Et il rigole pas, hein.
Pour utiliser une métaphore, l'ONSSA, c'est un peu le videur le plus strict du club le plus sélect de la ville. Ils ne se contentent pas de vérifier votre tenue, ils examinent l'ADN de chaque ingrédient qui tente d'entrer.
Et cette stricte barrière à l'entrée s'explique par les mécanismes mêmes de la sécurité alimentaire. L'ONSSA exige un dossier technique qui est, disons-le, monumental.
C'est pas juste un formulaire à remplir en ligne, quoi.
Et mentionné dans le guide. L'HACCP, ce n'est pas juste prouver que votre laboratoire est propre.
C'est quoi alors ?
C'est une méthodologie où l'entrepreneur doit identifier la seconde exacte où son huile d'argan ou sa poudre de nigel pourrait être contaminée, par exemple par une variation de chaleur lors de l'encapsulation. Et il doit mettre en place un contrôle physique précis à ce point d'étranglement spécifique.
Ah ouais, c'est ultra minutieux.
Il faut fournir des fiches techniques pour chaque lot de matière première, garantir qu'il n'y a pas de métaux lourds et respecter les limites maximales de dosage pour chaque vitamine.
Ils viennent sur place pour vérifier tout ça, alors ?
Bien sûr. Une notification stricte est exigée avant toute mise sur le marché. Et les inspecteurs se déplacent physiquement pour valider les locaux, s'assurant qu'il n'y a aucune contamination croisée entre les zones de production.
Donc, en gros, aucune place pour l'improvisation ou le charlatanisme de fond de garage ?
Aucune. Et si l'on relie cela à une vue d'ensemble, cette intransigeance institutionnelle est en réalité le plus grand avantage concurrentiel du secteur.
Comment ça ? Un avantage ? C'est plutôt une contrainte, non ?
Bah, ça protège les consommateurs, évidemment. Mais économiquement, ça donne toute sa valeur au label Made in Morocco. Sans cette rigueur implacable, les produits marocains seraient perçus comme des remèdes folkloriques.
Et ils n'auraient aucune chance à l'export.
Exactement. En visant directement les bonnes pratiques de fabrication, ou BPF et la norme ISO 22000, un laboratoire marocain prouve que ces standards sont équivalents à ceux de l'Union européenne. Le videur strict dont tu parlais s'assure en fait que la réputation de l'ensemble de l'industrie reste immaculée.
D'accord. L'ONSSA donne donc sa valeur au label. Mais Extraire cette valeur demande du capital. À quelle hauteur se situe le mur financier qu'il faut escalader pour entrer dans ce marché?
Ça, c'est la grande question.
Le guide de monprojet.ma nous offre deux projections financières très distinctes. Et c'est super intéressant, car ça montre qu'il n'y a pas un seul modèle unique pour réussir.
C'est exact. Et la différence entre les deux réside dans la mécanique de production. Le premier modèle, appelé scénario starter, correspond à une unité semi-artisanale.
Quel est le ticket d'entrée pour ça?
L'investissement initial requis est estimé entre 350 000 et 500 000 dirhams. Ça couvre l'aménagement de base, quelques machines semi-automatiques et le stock initial.
Et on produit combien avec ça, Evel?
L'entrepreneur peut produire entre 5 000 et 10 000 unités par mois. Si l'on prend un prix de vente moyen et prudent de 120 dirhams par flacon, les calculs de rentabilité dégagent un bénéfice net mensuel situé entre 15 000 et 25 000 dirhams.
Ah, c'est pas mal du tout, hein?
Oui, et le point mort, c'est-à-dire le moment où l'investissement initial est remboursé, est atteint en 14 à 20 mois. Ce qui est relativement rapide pour de la production physique.
Surtout avec une marge nette annoncée entre 25 et 35% pour ce scénario de base, ce qui est déjà très confortable. Mais le deuxième modèle change d'échelle, n'est-ce pas?
Totalement. Le scénario avancé implique la création d'un véritable laboratoire industriel. Là, on parle d'un investissement de 1,5 à 2,5 millions dirhams.
Ah oui, c'est plus du tout le même budget.
La mécanique technique est différente, quoi. Installation de salles blanches à atmosphère contrôlée, ligne d'encapsulation entièrement automatisée et un laboratoire de contrôle qualité intégré.
Et la production suit, j'imagine?
La capacité bondit pour atteindre 30 000 à 50 000 unités mensuelles. Grâce aux économies d'échelle, le coût de revient unitaire chute drastiquement. Par conséquent, la marge nette s'élargit pour atteindre 30 à 40%.
Impressionnant.
Les bénéfices mensuels projetés s'envolent alors entre 80 000 et 140 000 dirhams, avec un retour sur investissement estimé entre 18 et 24 mois.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces chiffres de marge purement industriels sont hyper séduisants. Mais en lisant les détails de la stratégie commerciale dans le guide, on découvre un mécanisme financier encore plus puissant.
Tu penses au canal de distribution?
Exactement. Le choix du canal de distribution. Apparemment, contourner la distribution classique en pharmacie, qui prend des marges énormes au passage, on le sait, pour vendre directement en ligne via son propre site e-commerce, ça permet de récupérer 15 à 20 points de marge supplémentaires.
C'est énorme!
C'est fou! On passe d'un modèle de distribution physique super lourd à une logique presque proche de la tech. Mais ça m'amène à une réflexion stratégique. Face à ces deux options, entre la petite unité agile du scénario 1 et la machine industrielle du scénario 2, le marché marocain actuel n'est-il pas plus adapté à des lancements progressifs?
C'est une très bonne question.
Je veux dire, construire une salle blanche géante d'emblée, ça semble être un pari démesuré, non?
C'est une excellente analyse de l'écosystème entrepreneurial actuel. Dans un secteur en pleine mutation, l'agilité prime sur la force brute. Le scénario starter est souvent la voie la plus stratégique. La mécanique d'une marque D2C, c'est-à-dire direct to consumer, explique parfaitement ce choix.
Vendre sans intermédiaire, quoi.
En vendant directement en ligne, l'entreprise ne récupère pas seulement 15 à 20 points de marge financière, elle récupère la donnée de son client. Elle sait exactement qui achète, quand et pourquoi.
C'est le nerf de la guerre.
C'est ce qui transforme un simple vendeur de gélules en une entreprise capable de générer des revenus récurrents. Commencer petit permet de valider les formulations, de tester l'efficacité de ses publicités sur les réseaux sociaux et d'ajuster son discours sans risquer des millions.
Et ensuite, on passe à la vitesse supérieure.
Exactement. Une fois la communauté fidélisée et le concept prouvé, le passage vers le scénario industriel se finance souvent de manière organique, soutenue par la trésorerie générée.
Et justement, parlons de cette fameuse communauté. Parce qu'avoir un entrepôt rempli de flacons parfaitement conformes aux normes de l'ONCL, bah ça sert à rien si les consommateurs ignorent leur existence.
Ah, ça c'est le classique.
La phase entre l'idée sur le papier et la première vente concrète est estimée entre 6 et 9 mois. C'est une véritable gestation. Le guide insiste lourdement sur la nécessité d'une stratégie marketing multicanale très fine.
C'est pas juste de l'impro.
Voilà, il ne s'agit pas juste de mettre une photo de plante sur Internet en espérant que ça se vende.
Non, la mécanique d'acquisition demande de la précision. Le document recommande de cibler les 25-45 ans via Instagram et TikTok avec du contenu dynamique, très visuel et surtout éducatif. Il faut expliquer comment agit la plante.
L'éducation, c'est la clé sur ces plateformes.
Pour la tranche des 35 à 55 ans, Facebook reste le canal privilégié car il permet un discours plus argumenté et rassurant.
Et en dehors des réseaux sociaux ?
Au-delà des réseaux, la création d'un blog optimisé pour le référencement naturel, le fameux SEO, est cruciale pour capter ceux qui recherchent activement des solutions à leurs mots sur Google. Il est aussi conseillé de tisser des partenariats stratégiques avec des naturopathes ou des coachs sportifs qui agissent comme des prescripteurs de confiance.
Le document met aussi en lumière une technique de tarification psychologique redoutable. Un truc tout bête, c'est finir les prix par un œuf. Proposer un produit à 99 ou 149 dirhams, ça modifie imperceptiblement la perception du coût.
C'est vieux comme le monde, mais ça marche.
Et pour exploiter à fond cette vente directe en ligne dont nous parlions, il suggère de mettre en place un système d'abonnement. Le client bénéficie d'une réduction de 15 à 20% s'il accepte de recevoir sa cure automatiquement chaque mois.
C'est très intelligent comme modèle.
C'est ce mécanisme précis qui transforme l'entreprise, en fait. Elle ne cherche plus à vendre un produit une fois. Elle bâtit un revenu récurrent, prévisible, exactement comme une entreprise de logiciels.
Et cette prévisibilité est vitale, car la gestion des risques dans ce secteur est impitoyable. Le guide liste plusieurs menaces critiques. Le risque réglementaire d'abord, qui impose une veille législative constante.
Faut toujours être à jour.
Le risque opérationnel ensuite, qui oblige à toujours avoir des fournisseurs de secours certifiés. Une rupture de stock sur un ingrédient clé, et c'est toute la chaîne qui s'arrête. Mais le plus grand péril souligné, c'est le risque financier lié à la trésorerie.
Ah, le fameux cash flow.
La règle d'or mécanique de cette industrie, c'est de disposer d'un fonds de roulement suffisant pour couvrir 3 à 6 mois d'activité sans rentrer d'argent.
6 mois, hein ? Pourquoi autant ?
Parce que les fournisseurs exigent souvent des paiements comptants pour les matières premières de haute qualité, tandis que les délais de livraison, la validation par l'ONSSA et la lente conversion des clients sur Internet créent un décalage massif dans les flux de trésorerie.
C'est un sacré gouffre au début. Il y a un autre risque mentionné qui me semble être le véritable talon d'Achille, bien au-delà de la trésorerie. C'est le risque de réputation.
C'est sûr que dans ce domaine.
Dans l'industrie du bien-être et de la santé, les marques vivent dans une maison de verre. Tout est scruté à la loupe par des consommateurs de plus en plus éduqués.
La moindre erreur se paye cash.
Un seul bad buzz concernant la qualité des ingrédients ou une analyse indépendante révélant que le dosage promis n'est pas respecté et c'est l'effondrement total. Une réputation met des années à se bâtir, mais les algorithmes des réseaux sociaux peuvent la réduire en cendres en moins de 24 heures.
Cela soulève une question importante. C'est celle du funambulisme éthique inhérent au marketing de la santé. La réalité commerciale de cette industrie crée une tension permanente.
Comment ça ?
D'un côté, la marque doit capter l'attention dans un flux ininterrompu de publicité sur Instagram. Elle doit être percutante, convaincante, presque agressive dans sa promesse d'une vie meilleure. De l'autre côté, la mécanique légale et morale est d'une rigidité absolue. Il est formellement interdit de faire des allégations thérapeutiques non fondées.
Oui, on ne joue pas au docteur.
Un complément n'est pas un médicament. Il accompagne, il prévient, il optimise, mais il ne guérit pas. Lorsque la pression financière augmente et que les ventes stagnent, la tentation de franchir la ligne rouge et de promettre un remède miracle est immense.
C'est un piège dangereux.
Les acteurs qui survivront au-delà de la vague de 2026 seront ceux qui maîtriseront cette ligne de crête. Susciter un désir profond d'achat par l'éducation sans jamais céder à la facilité de la fausse promesse médicale.
L'éducation plutôt que l'illusion, c'est un excellent principe directeur. La boucle est donc bouclée. De la semence de Nigel cultivée avec soin dans les sols marocains jusqu'au post Instagram ciblant un besoin précis, en passant par le labyrinthe exigeant des normes sanitaires, le parcours est fascinant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ?
Qu'on est à l'aube d'une révolution de ce marché.
En résumé, l'engouement prévu pour la production de compléments alimentaires au Maroc d'ici 2026, ce n'est pas un simple feu de paille. C'est la structuration méthodique d'une industrie moderne qui réconcilie l'héritage de la pharmacopée traditionnelle avec la rigueur scientifique contemporaine.
C'est une belle synthèse.
Et ce secteur offre une opportunité de rentabilité remarquable soutenue par les canaux numériques très performants, à la stricte condition d'accepter les règles du jeu imposées par les autorités sanitaires.
Les implications dépassent largement les seuls tableurs financiers des entrepreneurs, en fait. C'est une démonstration brillante de création de valeur ajoutée interne. Au lieu de brader ses ressources naturelles brutes pour les racheter au prix fort sous forme de produits finis étrangers, le pays structure une chaîne de valeur locale complète.
Et ça, c'est une vraie victoire.
Ça crée de l'emploi qualifié, ça démocratise l'accès à une santé préventive de qualité pour les citoyens, et ça bâtit une marque nationale capable de s'exporter fièrement à l'international. C'est le passage d'une économie de cueillette à une économie de l'intelligence et de la formulation.
Une perspective qui donne vraiment envie de suivre de très près l'évolution de nos pharmacies et de nos flux en ligne. Cependant, pour refermer cette analyse, il y a une dernière réflexion qui émerge de tout ça.
Laquelle ?
Un élément fondamental qui n'apparaît pas dans les prévisions de rentabilité, mais qui conditionne absolument tout le reste. Si ce brillant modèle économique repose intrinsèquement sur la qualité exceptionnelle et l'abondance relative des plantes endémiques marocaines, comme l'arganier, le romarin ou le thym, que se passera-t-il lorsque l'intensification du changement climatique et le stress hydrique aigu commenceront à réduire drastiquement les rendements agricoles ?
C'est la grande menace invisible.
La région est déjà sévèrement frappée. L'industrie peut construire les laboratoires les plus perfectionnés du monde. Son avenir ultime ne dépend-il pas avant tout de la capacité collective à protéger et régénérer l'écosystème fragile qui produit sa précieuse matière première ?
La question reste ouverte.
Et c'est une réflexion vitale à garder à l'esprit alors que cette industrie verte se prépare à exploser. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui.